Alors, je pense qu'on va faire passer un micro peut-être pour quelques questions, puisqu'on a un petit peu de temps devant nous. Je voudrais juste lancer un tout petit peu la discussion, puisque quand on a comme ça dans une même session une perspective historique, une perspective sociologique, on a un peu envie de les faire dialoguer. Alors, même si les situations décrites en fait ne sont sûrement pas analogues, moi, je ne suis pas sûr que les incorrigibles d'hier seraient les jeunes filles accueillies aujourd'hui dans les maisons des adolescents. Elle le serait peut-être plutôt en centre éducatif fermé ou dans d'autres types de structures. J'ai envie de demander à Véronique et David ce que leur évoque l'enquête qui vient d'être présentée, ses résultats empiriques. Puis à Jean-Sébastien, en fait, j'ai envie de demander ce que la perspective historique présentée au départ révèle des permanences dans le traitement des déviances adolescentes. Est-ce qu'elle permet peut-être aussi de dire des évolutions récentes de la sanitarisation de ces déviances ? Et puis peut-être une dernière chose aussi, de revenir sur ce terme d'économie morale, puisque c'est celui qui présidait à cette recherche, et notamment comment on peut articuler cette notion d'économie morale aux périodisations historiques qui ont été présentées au début.
Oui, question complexe comme ça à chaud. Hein. Moi, je ne suis pas si sûre que les mauvaises filles d'aujourd'hui ne sont pas celles que vous nous avez présentées ici. Et je ne suis pas sûre qu'elles soient toutes dans les centres éducatifs fermés. Je pense que beaucoup sont prises dans les structures de soins psychologiques, et qu'on retrouve exactement cette idée sur laquelle vous avez conclu, finalement, que les jeunes filles, ça peut parler, ça peut presque naturellement dire son malaise, l'exprimer, ne pas le manifester, ne pas claquer la porte. Alors quand elle claque la porte, aujourd'hui effectivement on met en place des structures plus rigides comme les centres éducatifs fermés, mais sinon on fait appel à leur féminité avec plein de guillemets, hein, en ce qui me concerne je mets beaucoup de guillemets sur ça, on fait appel à leur féminité et donc à leur sens du dialogue, hein, pour pouvoir les accompagner et les aider, et donc de mauvaises elles deviennent bonnes puisqu'en plus elles s'adaptent au système, mais là encore je pense qu'il s'agit de représentation, et d'acculturation et d'éducation. Et qu'effectivement, on a éduqué les jeunes filles afin qu'elles puissent accéder à ce type de prise en charge, et qu'on attend moins des garçons qui s'adaptent à ce type de lieu. Voilà, mais ce n'est pas essentiel, c'est pas par essence, hein, que les jeunes filles peuvent comme ça utiliser ces outils. Voilà ma première réaction, hein, mais c'est vraiment à chaud. David, tu veux peut-être aussi rajouter des choses.
Moi, j'ai trouvé, Jean-Sébastien, des choses intéressantes à puiser dans ce que tu nous as présenté, dans le sens où nous aussi, on cherche à voir les capacités d'agentivité, comme on dit au Québec, d'agency des filles à travers l'histoire, et que tu nous montres qu'à travers un dispositif, un certain nombre de filles en difficulté réussissent à tirer parti des ressources qui leur sont proposées. Et donc, c'est en effet intéressant de voir comment est-ce qu'elles utilisent le dispositif. Ce qui m'aurait intéressé aussi, c'est de creuser peut-être sur la question de est-ce que le dispositif, elles s'y soumettent de manière systématique, ou est-ce qu'elles ont des stratégies de subversion d'une certaine manière ? Parce que nous, à travers l'histoire, enfin en tout cas, sur les 50 dernières années et le moment où la psychologie et la psychiatrie prennent de l'importance dans les centres de rééducation pour filles, ce qu'on a pu constater, c'est d'une part, une certaine forme d'injonction paradoxale de la part des sciences du psychisme à l'égard des filles, c'est-à-dire, oui, on va prendre en compte votre parole, on va essayer de s'appuyer sur vos dispositions féminines, alors là aussi, il faut déconstruire, et où, en même temps, quelque part, ces experts des sciences du psychisme reprennent le contrôle et reprennent le pouvoir de manière absolument discrétionnaire dès qu'il s'agit de recadrer, décider des orientations, garder, libérer, placer, etc. Et donc les filles sont mises dans des illusions d'avoir le contrôle, sont placées dans des situations d'illusion d'avoir le contrôle sur leur vie, là où en réalité il y a une forme de discipline, et la pire, j'ai envie de dire la pire des disciplines, c'est l'autodiscipline finalement. Bref, on pourrait en reparler longtemps, mais oui, c'est ça, je sais plus, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, et l'autre oui, je te passe la parole, j'avais une deuxième idée mais je la retrouverai tout à l'heure.
Oui, merci. Alors, ça fait pas mal de questions très intéressantes, différentes. Je vais essayer de de répondre à un peu tout en associant certaines idées. Un mot peut-être sur la sanitarisation, alors on peut dire sanitarisation, psychiatrisation, médicalisation, il y a beaucoup de termes comme ça, les analyses, il y a beaucoup d'analyses classiques qui reprennent ces termes-là. Nous, on a essayé beaucoup de réfléchir à ça et de montrer combien c'était compliqué de parler, d'utiliser ces termes-là, parce qu'ils sont très polysémiques. Par exemple, dans notre cas, parler de sanitarisation, est-ce que ça veut dire que il y a une extension de la juridiction de la psychiatrie, c'est-à-dire que la psychiatrie est amenée à rencontrer des situations qu'avant elle ne rencontrait pas. Et là, oui, je crois qu'on peut le dire très clairement, et le regard historique est très intéressant pour bien documenter ça. En même temps, quand on parle de médicalisation, de sanitarisation, on a souvent l'idée que c'est aussi une façon de poser des diagnostics, d'interpréter les situations de manière médicale. Et là, c'est beaucoup plus complexe. Par exemple, si on prend le point de vue des professionnels, eux, ils peuvent avoir la vision un peu inverse, que eux-mêmes se font un peu démédicaliser par ces nouvelles politiques où on leur demande de travailler de manière pluridisciplinaire, de recevoir des adolescents qui n'ont pas de pathologie très déterminée. Et c'est intéressant aussi de remarquer que sur toutes ces populations qui ont des formes de mal-être qui sont difficiles à identifier, on a des cas où va être posé un diagnostic ferme et beaucoup de cas où aucun diagnostic ne va être posé. Or, du côté des classes populaires, on a relativement rarement, par rapport aux cas auxquels je pense dans des catégories plus favorisées, où un diagnostic est posé. Et très souvent, on reste dans une incertitude autour de catégories du type troubles du comportement, on ne va pas trop dire ce que c'est, alors que quand on va dans des familles plus dotées, on ne va pas aller vers ces maisons des adolescents, mais on va aller trouver un spécialiste en libéral qui va diagnostiquer quelque chose de beaucoup plus précis, comme, je ne sais pas, une phobie scolaire ou quelque chose comme ça, qui va servir à avoir des ressources, à calmer effectivement l'école par d'autres moyens, alors que nous, là, dans ce qu'on a vu, il y avait très très rarement des catégories diagnostiques très fermes qui ont été posées. Donc, extension de la psychiatrie à travers la transformation en santé mentale, etc., oui, mais médicalisation au sens où tout d'un coup, on se met à poser énormément de diagnostics qu'on ne posait pas avant, c'est complexe. Ça se fait sur certaines fractions de la population plus facilement que sur d'autres, et nous, c'est pas tellement ce qu'on a vu là. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de distinguer un peu ces différents sens possibles de la sanitarisation. Alors ça, c'est du coup, c'est intéressant aussi parce que dans une perspective historique, on voit que ça peut être très variable selon les périodes. Il y avait des périodes où, au contraire, les catégories populaires étaient beaucoup plus confrontées à une psychiatrie qui pose tout de suite des diagnostics qui enferment. Là, on est dans une configuration un peu différente. Pour faire le lien avec les économies morales, bon, qui était un peu la base du programme, dont on s'est servi, et puis finalement dans l'ouvrage final, dont on ne s'est pas autant servi que ce qu'on pouvait faire au début, parce qu'on avait aussi certaines critiques à formuler par rapport à la notion, ça nous semblait quand même intéressant de, c'est ce qui transparaît un peu là dans la présentation, de montrer que les économies morales, c'est l'idée que selon les périodes, justement, il y a des configurations où des valeurs, des affects circulent et sont liés les uns aux autres. Et donc, pour essayer de décrire la configuration actuelle, il faudrait montrer que, justement, il y a des valeurs qui sont codées comme plus féminines, des valeurs qui sont codées comme plus masculines, et que ça va avoir un impact important sur les parcours, sur qui est-ce qui va à la maison des adolescents, qui est-ce qui n'y va pas, puisque, pour reprendre aussi la question sur la subversion, le principal moyen de subversion, c'est d'arrêter de venir, c'est de refuser, parce que c'est des dispositifs, les maisons des adolescents, qui sont quand même très faibles. Ils ont très très peu de moyens, à la fois de moyens financiers et de moyens de contraintes. Donc très souvent, on demandait ça aussi aux différents professionnels. Est-ce que vous êtes content de votre travail? Racontez-nous des cas où vous êtes content. Et ils avaient un peu de mal. Très souvent, ils disaient, bah oui, alors il y a ce cas-là, mais bon, ils ont arrêté de venir. Là aussi, là, on a quand même bien travaillé, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Enfin, c'est assez insatisfaisant pour les professionnels. Ils ont très peu de moyens. Donc, on n'est pas dans la psychiatrie qui a sous la main vraiment ces patients et qui en fait un peu ce qu'ils veulent. Ils sont dans une très grande difficulté à garder leurs patients, à nouer une alliance thérapeutique, comme ils disent, parce que c'est souvent l'école qui envoie, c'est sous contrainte. Et donc, il y a quelques cas comme ça où ça marche, comme celui que je vous ai exposé, mais c'est quand même relativement rare. Donc, la manipulation de la structure par les familles, elle est assez facile et souvent, bah, voilà, au bout de quelques temps, on n'y va plus et c'est comme ça que ça se termine un peu brutalement.
Des questions, commentaires, prolongements? Moi, j'en aurais une ou deux, plutôt à l'égard de Jean-Sébastien. Je me demandais comment, pour ce qui concernait le passage en maison des adolescents, parce qu'il s'agit d'adolescents, le discours sur cette fréquentation-là pouvait être un discours aussi adressé au père. Autrement dit, comment est-ce qu'on gère, j'imagine, le stigmate que constitue la fréquentation de ces adolescents, en tout cas auprès des pères. Parce qu'en gros, quand on est ado, d'autant plus quand on n'a pas trop l'habitude de fréquenter ce genre de structure, donc davantage quand on est ado dans des milieux populaires, on va à la maison des fous, on est fou puisqu'on côtoie des psychologues, etc. Donc comment ça se gère et manifestement, comment est-ce que le stigmate peut s'inverser pour devenir une ressource?
Comment c'est géré par les adolescents?
Oui, par les adolescents eux-mêmes. Ouais.
Ben oui, c'est ça, c'est que on a retrouvé beaucoup plus de réactions du côté des garçons, du type « j'ai rien à faire là, je veux pas y aller », une espèce de honte d'aller dans ces lieux-là en disant « moi je suis pas fou, pourquoi on m'emmène là ?» Et donc, si je suis obligé d'y aller pour que ça se calme à l'école, ok, j'y vais, mais j'en fais le moins possible. En gros, il y a eu pas mal cette vision-là. Après, les professionnels, ils ont tendance à avoir une autre interprétation. Par exemple, dans beaucoup de cas, ils vont dire « bon, l'adolescent explicitement ce qu'il dit c'est que il veut pas être là mais en fait ça lui fait beaucoup de bien et finalement il est très content d'être là mais il veut pas le dire devant ses parents. » Donc c'est compliqué hein, d'interpréter parce que de fait dans les consultations familiales ils parlent très très peu les adolescents, c'est le principe, c'est ce que je disais, on décale, on fait parler les parents et l'adolescent il écoute et il est là un peu pour ça. Voilà, pour ceux qui acceptent des suivis individuels, qui restent un peu plus longtemps et notamment pour certains cas, alors je vous raconte un autre cas qui nous a intéressé, c'est le cas d'une jeune fille qui est arrivée, qui a pu rejoindre sa mère en France en venant de Haïti avec une immigration clandestine où elle a pris une autre identité, un autre âge, donc on l'a mise dans une classe qui n'était pas du tout celle de sa classe d'âge. Bon, voilà, c'était une situation extrêmement compliquée. Et alors elle, ce qu'elle raconte en entretien, c'est que déjà, elle est extrêmement renfermée, extrêmement timide, c'était déjà le cas à Haïti, et elle rêvait un peu de devenir psychologue, ça l'intéressait beaucoup la psychologie, mais sa mère, elle ne veut pas entendre parler, elle dit « mais non, la psychologie c'est affreux, c'est pour les fous, etc. » Et finalement, elle aussi, elle a beaucoup adhéré, investi la maison d'adolescents parce que c'était se rapprocher un peu de ce qu'elle voulait faire. Et c'est amusant ce qu'elle nous raconte en entretien, c'est que bon, elle était plutôt bonne à l'école, même si là, c'est devenu compliqué parce que voilà, elle se sentait pas bien. Mais comme sa mère veut absolument pas qu'elle fasse d'études de psychologie, elle pourrait être infirmière. Elle a vu que dans la maison des adolescents, il y avait des infirmières aussi qui venaient parler aux enfants. Donc elle essaye de trouver cette voie un peu intermédiaire. Et elle aussi, elle essaye, en côtoyant les professionnels qui sont voilà, un univers qu'elle n'est pas habituée à côtoyer, de se dire finalement, je pourrais peut-être faire un peu autre chose, je pourrais contourner un peu l'interdiction de ma mère d'aller vers ce milieu-là en trouvant quelque chose d'un peu parallèle. Et elle aussi, du coup, elle adhère à la structure, plus que sa mère finalement, qui, elle, est un peu réticente, trouve que, bon, on est un peu obligé de venir là, mais elle ne sait pas trop si ça sert à quelque chose. Elle est assez, on a vu la mère aussi en entretien, elle est beaucoup plus critique sur le dispositif, elle dit, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Et la fille, elle, sans le dire trop à sa mère, elle investit d'une autre manière. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu ces différentes façons de faire. Soit on clame haut et fort, voilà, un peu comme les parents, qu'on n'a rien à faire là. Soit on dit trop rien, mais on investit d'une autre manière. Il y a plein de stratégies différentes qui peuvent être développées.
d'autres questions ?
Merci. Oui, je me lève. Oui, moi j'ai beaucoup aimé les deux présentations, hein, merci beaucoup. Et je pense qu'il y a un lien qui est très très fort entre vos deux présentations, qui est notamment la façon dont justement on prend en charge les enfants qui sont, ou les enfants ou les adolescents qui sont transgressifs, qui explosent les cadres. Comment est-ce qu'on les prend en charge ? Et ma question, elle est relative en fait à ce que vous avez dans la première présentation. C'est est-ce que à la maison des adolescents, on envoie différemment les filles et les garçons, ou indifféremment les filles et les garçons ? Comment est-ce qu'on oriente ces enfants ? Est-ce que les prescriptions, entre guillemets, sont différentes et les raisons pour lesquelles on les oriente, là, sont différentes entre les filles et les garçons ? Et une petite question subsidiaire, est-ce que vous avez des chiffres concernant, juste pour avoir une idée de la proportion, du nombre d'enfants, de filles suivies à votre maison d'adolescents et de garçons ? Merci.
Les voies d'accès sont très diverses. Hein. En théorie, les adolescents peuvent venir d'eux-mêmes. Ça peut être l'école d'abord qui signale. Ça peut être, notamment dans cette maison-là, via les urgences de l'hôpital pour les tentatives de suicide. Et de fait, statistiquement, très clairement, il y a beaucoup de filles qui arrivent via les urgences, tentatives de suicide ou alors crise d'angoisse, et beaucoup de garçons qui arrivent par un signalement de l'école qui dit qu'elle n'en peut plus. Il y a aussi des filles qui viennent par l'école, encore une fois, parce que l'école, c'est vraiment le plus grand pourvoyeur. Mais on a quand même assez clairement ces deux figures qui sont statistiquement fortes. Du côté, le garçon avec trouble du comportement, qui n'arrête pas de se battre à l'école, qui est insolent. Et de l'autre côté, la fille qui a fait une tentative de suicide, qui ne va pas bien, qui a des crises d'angoisse, et qui peut poser problème à l'école, mais un peu sur un autre mode. Bon, voilà, encore une fois, c'est pas complètement mécanique, mais c'est beaucoup comme ça. Après, j'ai pas les chiffres en tête, il y a plus de garçons, je dirais comme ça que c'est à peu près 2/3, 1/3, mais il faudrait aller vérifier, on a des données, mais je me souviens plus précisément des chiffres.
Juste pour comparaison historique, on travaillait avec Véronique sur la question de l'observation, des institutions d'observation dans la justice des mineurs au XXe siècle, en France et moi en Belgique. Véronique en France et moi en Belgique, et pour avoir des données un peu longitudinales comme ça, sur l'ensemble de la période où la justice des mineurs recourt à cette observation psychologique et psychiatrique pour prendre une décision. Donc le juge des enfants décide d'envoyer le jeune ou la jeune prévenue dans une institution médico-pédagogique, comme on dit à l'époque, dédiée. J'avais fait des statistiques un peu longitudinales des années 1912, l'invention du tribunal pour enfants, aux années 65, la réforme de la justice des mineurs en Belgique. Et sur cette période, on remarque qu'environ 30% des garçons sont envoyés en observation pour une période de 3 mois avant que jugement soit rendu, de manière à rendre un rapport médico-pédagogique sur sa situation mentale. Là où 60% des filles sont envoyées en observation sur la même période. Donc il y a une vraie différence garçon-fille.
Et pour la France, c'est 80% des filles qui sont envoyées en centre d'observation pour 20% des garçons. La masse des garçons étant nettement plus importante que la masse des filles. Hein, mais en pourcentage, les jeunes filles vont quasiment systématiquement être envoyées en centre d'observation, ce qui n'est absolument pas le cas pour les garçons. Et la question que vous posez est vraiment d'une phrase extrêmement importante pour réfléchir à cette différenciation entre les filles et les garçons, de savoir pourquoi on les envoie. Et je pense que c'est là que se situe la grande différence. C'est-à-dire, et c'est ce qu'on a essayé de montrer, c'est qu'on ne reproche pas et on ne voit pas les comportements des unes et des autres de la même manière.
Merci beaucoup. Plus de questions ? Bien, on va lever le banc.